Bon, eh bien, ce soir, on a le plaisir d'accueillir Nicolas Puig, qui est donc anthropologue, chargé de recherche à l'IRD. En ce moment, il est affecté à l'URMIS, donc un laboratoire à Paris qui travaille sur l'immigration internationale. Alors, ses recherches portent sur les pratiques sociales et les expériences urbaines des citadins illégitimes, en portant le regard autant sur les marges spatiales, sociales, politiques, qu'artistiques et morales. Donc il a travaillé successivement, maintenant ça remonte à un certain nombre d'années, mais sur les Bédouins du sud tunisien, ensuite sur les musiciens de noces au Caire, et plus récemment, donc maintenant depuis quelques années, sur les réfugiés palestiniens au Liban. Alors il travaille actuellement sur la question d'apparence à partir de deux terrains libanais qu'il met en dialogue, le mode de présence des migrants dans l'espace public dont il va nous parler aujourd'hui, et la chirurgie plastique et les scènes mondaines. Je vais vous faire circuler un ouvrage. Nicolas Puig a été à deux reprises successivement en poste au Liban, tout d'abord à l'Institut français du Proche-Orient entre 2006 et 2010 à peu près, je crois.
2006-2008.
Voilà. Et ensuite en poste à l'Université Saint-Joseph, dans un laboratoire qui s'appelle le CEMAM, plus récemment. Donc il est rentré depuis... l'été dernier de Beyrouth. Et donc pendant un temps, nous avons collaboré sur un programme qui s'appelait l'Urbanité des marges, sur les migrants et les déplacés au Proche-Orient. Donc on a eu une publication que nous avons co-dirigée ensemble. Donc, je vais faire circuler cet ouvrage hein, qui recoupe en partie, je l'ai apporté, parce que ça recoupe en partie ce dont il va parler aujourd'hui. Voilà, donc bah, merci beaucoup en tout cas d'être venu, puis bah, je vais te laisser la parole.
Bonjour et merci pour votre invitation, invitation qui m'a un petit peu au départ enchanté mais aussi stressé parce que finalement je vais rendre compte d'une recherche qui est un petit peu, qui est encore en cours et que tout ce que je vais dire est susceptible d'être amendé parce qu'on n'a pas exploité encore la totalité des résultats qu'on a eus. On a exploité qu'une petite partie de ces résultats. C'est un petit peu exploratoire, mais en même temps, ça m'a obligé à mettre quelques idées en place et puis à réfléchir sur ce travail collectif donc, qui concerne le marché de Sabra à Beyrouth, récit d'une greffe urbaine. Donc je voulais introduire mon propos avec cette citation de Jean-Charles de Paul, qui est un anthropologue urbain et aussi un poète, parce qu'elle indique bien, il me semble aussi, c'est le type de récit que je vais proposer, ce récit d'une greffe, qui est un récit qui est en pointillé, qui est, essayer de dégager à partir de finalement d'échantillons du tissu social et sensoriel du marché, d'essayer de dégager des lignes de cohérence qui sont finalement des lignes de cohérence anthropologique. Je reviendrai sur ce principe méthodologique, mais qui est aussi un principe épistémologique finalement, qui a guidé notre travail. Pour donner tout de suite quelques clés de lecture de ce que je vais vous montrer, disons qu'on a travaillé un peu comme on compose, comme les musiciens électro. J'ai travaillé sur des musiciens électro-rap au Liban. Comme les musiciens de musique électronique composent la musique, c'est-à-dire avec des sons déjà là qu'ils vont chercher et qu'ils agencent ensuite dans une visée esthétique. Donc nous, on a prélevé des échantillons qui sont des échantillons de diverses natures, qui sont visuels, qui sont sonores, qui sont des interactions, qui sont aussi des moments que j'appelle des moments lents, qui sont des moments de déprise ou disons où on se déprend de l'engagement par rapport à l'autre. Et on essaye ensuite de les recomposer et de les réassembler selon différentes lignes. Alors, la greffe cette greffe urbaine dans le marché de Sabras concerne l'arrivée depuis 2-3 ans de Bengalais, des gens du Bangladesh, qui ont greffé, qui ont sur ce marché leurs propres activités commerciales. Et ça se passe dans un endroit qui est déjà saturé. Évidemment, vous connaissez Sabra. Sabra est un groupement Donc le camp est un groupement palestinien qui jouxte le camp de Shatila, qui lui est un camp géré par l'UNRWA, l'organisme des Nations Unies qui est dévolu à la gestion des réfugiés palestiniens, tandis que Sabra est un lieu qui est plus diversifié, même s'il y a une majorité de Palestiniens. On y trouve aussi des Libanais et des Syriens qui sont installés là de longue date. C'est donc un espace de densité qui est une densité politique, sociale, mais aussi symbolique. Donc dans cet espace-là, les Bengalais ont installé leurs propres activités dans les interstices de ce marché de Sabra. Donc là, c'est un croquis qui est fait par un Palestinien de Shatila qui raconte un peu l'évolution du marché. Ici, c'est le camp de Shatila. Là, la mosquée, la première zone du marché. Le carrefour dont je vais vous parler. Et là, l'avenue de Sabra. Et la zone où les Bangladais se sont installés, c'est cette zone centrale ici autour du carrefour. Et après, ça commence à se diffuser dans cette direction-là. Et ici. Donc les migrants, un premier, attention de ne pas tomber, je vous en prie. Donc un premier migrant qu'on appellera un pionnier est arrivé et a ouvert cette épicerie placard sur laquelle il y a le portrait de Yasser Arafat. Bon, un bon nombre de Bengalais, en fait beaucoup des Bengalais avec lesquels j'ai discuté, ignorent qui est Yasser Arafat. C'est pour dire que chacun a disposé ou placé ses propres signes et les propres marqueurs de son monde dans cet espace-là. Un premier migrant arrive dans les années, à la fin des années 2000, début des années 2010, et derrière ça, il y a toute une vague, il ouvre un restaurant, et il y a toute une vague de Bangladais qui arrive et qui s'installe dans le Mustapha Razé, qui est l'ancien hôpital de l'OLP qui est reconverti aujourd'hui en habitation et je pense que Michel Agier qui viendra vous parlera de cet espace-là. Alors ces migrants bangladais ont installé donc leurs propres activités, c'est-à-dire ils vendent leurs produits, donc des légumes asiatiques, des poissons qui sont importés du Bangladesh mais qui viennent majoritairement pour l'instant de Syrie et d'Égypte, qui sont des poissons de rivière, des épices et des DVD, des CD qui sont en tamoul, en bengalais et en hindi. Et puis dans cet espace autour du carrefour que je vous montrais tout à l'heure, des commerces pérennes se sont installés, c'est-à-dire que maintenant le commerce le marché se tient le dimanche, c'est le dimanche qu'il y a cette affluence de migrants, donc bengalais, mais aussi d'autres migrants asiatiques, notamment du Liban. Et en semaine, il y a des commerces bengalais qui se sont ouverts avec un certain nombre de... Voilà, donc ça, c'est le premier épicerie placard. Et des commerces qui se sont ouverts et finalement, il y a une emprise ou le début d'une centralité des migrants du Bangladesh dans cet espace-là avec tout un tas d'annonces qui concernent la vie politique avec un début de vie associative dans ce lieu. J'ai pas sorti mon... Ah oui, ça va, on a un peu de temps. Donc on a comme ça une dissémination des traces d'une vie étrangère dans l'espace de Sabra. Dans le paysage visuel et iconographique du quartier, mais aussi dans le paysage sonore, ce que je vais montrer tout à l'heure. Et on a cette création d'une centralité migrante dans ce lieu déjà saturé. Donc nous, on s'est interrogé, parce que c'est une enquête collective, je vais y revenir, on s'est interrogé sur cette greffe, ce qu'on appelait une greffe urbaine, sur cette juxtaposition déjà de logique, puisque chacun a son marché, chacun a son commerce et chacun a son type, son ordre social qui se dégage de ses propres activités. Et puis, qu'est-ce qui se passe, puisque c'est une greffe, en termes d'hybridation, parce que forcément, ça communique de diverses manières. Donc, on s'est demandé quel type d'imbrication, quel type d'hybridation naissait de cette juxtaposition de ces deux, en fait, ils sont plus que ça, mais disons, du monde bengalais avec le monde de ceux qu'on va appeler les installer, les locaux, qui lui-même n'est pas un monde homogène, puisque j'ai dit tout à l'heure qu'il y a des Syriens, des Libanais et des Palestiniens, et qu'entre eux, il y a des enjeux aussi de légitimité, mais qui, par rapport aux migrants, va se constituer comme une entité, disons, relativement homogène. Et c'est une greffe urbaine, évidemment, parce qu'elle prend appui sur la ville, sur ses espaces, parce qu'elle la marque, elle la marque de différentes façons. Donc on a deux types de questions qui découlent de ça. C'est un, quel espace relationnel ou comment fonctionne cet espace construit sur une logique asymétrique qui est que l'on tolère et sous quelle forme se commerce des Bangladais dans l'espace de Sabra. Comment se passe ou se manifeste la domination ou l'hospitalité des installés sur les migrants. Et puis, une autre série de questions va concerner le marché comme expérience sensorielle, et, notamment du fait de cette présence perçue comme envahissante et qui est... disons qu'on va, la perception va travailler la représentation et ce cheminement entre la perception et la représentation nous intéresse puisqu'il module ou il nuance les phénomènes de substance et de catégorie. Et c'est bien ça peut-être ce que met en avant à l'arrivée, je veux dire, un des buts ou un des, disons, un des horizons de cette enquête, c'est un petit peu de voir comment social et sensoriel sont, travaillent ensemble. Donc quelle ambiance sensible et comment penser, c'est ça, l'intrication du social et du sensible, donc en retraçant ces cheminements entre perception et représentation. C'est une expérience qui crée autant qu'elle met à l'épreuve des représentations phénotypiques, l'autre par son physique, moral, l'autre par ses qualités, et comportemental, l'autre par ses façons d'agir, qui sont fortement imbriquées. Donc on a le croisement de ces deux entrées, l'intérêt pour les micro-événements, les situations par lesquelles se met en place ou se manifeste un ordre social spécifique à ce lieu, et puis la dimension sensible du lieu. Alors pour ça, il fallait développer des méthodes qui nous permettent justement d'accéder à cette double dimension. Donc on a investi ce terrain depuis, les premières enquêtes ont commencé en octobre 2012, donc on a investi collectivement ce terrain avec quelqu'un qui fait de la vidéo, de l'anthropologie visuelle qui s'appelle Michel Tabet, avec une photographe anthropologue qui s'appelle Hoda Asatli, avec une anthropologue qui travaille sur Shatila, Hala Abouzaki, avec un géographe qui fait sa thèse au Liban, Asef Dahdar, avec Michel Agier, et puis Rim Hachem aussi, qui a fait des entretiens avec nous à Sabra, qui était une stagiaire. Et on a mobilisé différentes méthodes. Donc là, je vous montre juste pour donner une dimension, enfin pour éclairer un petit peu mon propos, je vous montre quelques photos de l'emprise bengalaise sur le marché. Qui sont des photos de Hoda Asatli, tant qu'il n'y a pas écrit crédit Denis Vidal, parce que Denis Vidal a pris quelques photos aussi. Voilà, c'était pour arriver là. Donc au départ, la base de l'enquête, c'est quand même une méthode ethnographique classique d'observation. Donc il fallait trouver un poste d'observation et nouer une relation, ce qu'on appelle une relation anthropologique, c'est une relation avec quelqu'un présent sur le marché qui accepte qu'on passe du temps avec lui et qui soit partie prenante entre guillemets de l'enquête, en tout cas qui soit au courant de ce qu'on fait. Parce qu'on allait le dimanche, parfois à deux, parfois à trois, parfois tout seul, filmer, enregistrer, regarder ce qui se passe, faire des enregistrements sonores. Donc il nous fallait trouver un poste d'observation. On en a trouvé un, en la personne de Abul Aiz, qui est un vendeur de bananes qui est situé syrien, qui est là depuis plus de 20 ans, et qui est situé au carrefour de Sabra. Donc voilà le poste d'observation, donc nous sommes en place. Poste d'observation idéal parce que devant sa charrette, il y a installé un petit stand qui est là tous les dimanches d'un Bangladais qui vend des DVD, des CD et qui s'appelle Hassan et qu'on voit là de dos. Et ça, c'est ce que voit en fait Abul Aziz depuis sa charrette le dimanche. Et on a aussi noué relation avec Hassan. D'ailleurs, en arrivant au départ, c'est Hassan qui nous a offert une hospitalité en nous payant un jus. Et assez rapidement, ensuite, c'est Abul Aziz qui a pris le relais, qui nous a offert des chaises. Et à partir du moment où un café où on a pu s'asseoir. Et donc, on a commencé à entrer dans la place et à avoir une certaine légitimité à venir se poster là tous les dimanches, regarder ce qui se passe. Ça n'a pas été non plus en difficulté avec les chauffeurs de taxi qui assurent une sorte de police du lieu, mais qui finalement nous ont assez rapidement accepté. Voilà, alors depuis ce poste-là aussi, on a des personnages autour de nous dont je parlerai petit à petit. Et on peut dire qu'à cet endroit-là, sur ce carrefour, finalement, on a quelque chose qui est une dimension verticale qui est celle des histoires des personnes qui sont là, de leur trajectoire, qui sont toujours des histoires ou des trajectoires de mobilité. Abul Aziz vient de Syrie, son voisin Mohamed est passé en Grèce et puis il est revenu, c'est un Palestinien du Sud qui est allé en Grèce, qui est revenu, qui s'est installé à Shatila. Tout le monde a une histoire de mobilité, y compris les Bangladais, évidemment, puisqu'ils arrivent du Bangladesh dans des conditions, bon, si vous voulez, on pourra en parler après, qui ne sont pas non plus qui sont pas évidentes. Et puis, c'est un lieu qui crée sa propre histoire parce qu'ils sont tous maintenant dans cet espace-là. Et cet espace-là crée aussi sa propre logique. Non seulement il crée sa propre logique, mais il réfracte, un peu comme la lumière tape dans l'eau, les trajectoires des personnes parce qu'il les infléchit. Par exemple, on vient là, on trouve un emploi, un Bangladais sans emploi peut venir dans cet endroit-là, voir, discuter avec des collègues et trouver, se relancer sur des recherches d'emploi. Voilà. Et puis, donc, le lieu crée sa propre histoire. Donc toutes ces histoires sont modifiées, sont transformées par ce filtre du marché. Et nous avons donc tenté de travailler sur ce filtre et sur ces aspects sensoriels en travaillant sur l'ambiance comme support du monde sensible. Alors on est parti, ça c'est l'aspect que moi j'ai plus développé, sur des enregistrements sonores. Donc il s'agissait de plusieurs types d'enregistrements. D'abord, voir tout ce qui est du domaine sonore, mais qui n'est pas des mots, qui n'est pas intelligible et qui va finalement donner le matériel d'un travail sur le son en lui-même. Que va nous dire le son de cet espace-là, en dehors des significations dont il peut être porteur. Et là, à ce moment-là, ce sont les mots. Donc on a travaillé sur cette articulation, et quand je dis on a travaillé, c'est prospectif, à vrai dire, il faudra travailler sur cette articulation entre les sons et les mots. Alors il y a cet aspect documentation d'une ambiance sonore, est-ce qu'on peut en faire? Je vous donnerai des exemples tout à l'heure. Et puis il y a un autre aspect qui est des relevés d'interaction, c'est-à-dire obtenir des bribes de conversation et d'interaction entre les différents acteurs du marché de façon à pouvoir voir comment la langue traite l'altérité, comment comment on s'adresse à l'autre, comment on crée ou pas une familiarité, une proximité. Donc ça, ce sont des relevés d'interaction. On a des bribes comme ça. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'échantillons, de bribes, et la citation de Jean-Charles de Paul convenait parfaitement à ce que méthodologiquement on est en train de travailler. Donc ces échantillons sonores, moi je les vois comme des samples, au sens sample, au sens de ces morceaux musicaux qui sont agencés, je vous parlais tout à l'heure dans la composition musicale, et à nous de trouver comment les agencer et en fonction de quel discours ou de quelle intelligibilité on veut se diriger. Et puis il y a retrouver la façon dont tous ces gens du Bangladesh s'insèrent dans le paysage sonore. Dans le paysage sonore du marché. Et finalement, là, on a cette idée d'accroche qui est les accroches sonores, c'est-à-dire des moments, des situations, des choses, des marqueurs, des traces par lesquelles se noue une présence ou par lesquelles se noue une relation. Donc je reviendrai sur cette question d'accroches, qui sont des accroches sonores, mais aussi des accroches sociales, c'est-à-dire des moments où on sort de ces moments-là dont je parlais tout à l'heure pour rentrer en communication. Et le principe, c'est que ce qui fait accroche va nous aider à comprendre qu'est-ce qui est important dans l'ordre social qui se met en place dans le marché. Et puis, il y a un deuxième dispositif qu'on a expérimenté avec Vincent Battesti au Caire, qui est un enregistrement avec un micro binaural stéréophonique, c'est-à-dire qu'on équipe un habitant, un volontaire, de micro dans les oreilles, donc ça a l'avantage d'être discret, et d'enregistrer exactement ce que la personne entend. Elle fait un parcours routinier, et ensuite on réécoute ce parcours avec elle et on le commente. Donc ça, c'est une méthode qu'on teste avec donc Vincent au Caire. Et là, on a essayé un petit peu de la mettre en place. On a pu la mettre en place avec les installés, c'est-à-dire avec en gros deux Palestiniens. Enfin, un Palestinien, une Syrienne qui a épousé un Palestinien qui est là depuis longtemps. Mais on n'a pas pu le faire avec les migrants pour des raisons de sécurité. Voilà, parce qu'il peut y avoir aussi des côtés désagréables à se faire... à se balader comme ça avec ses micros. Enfin, c'est pas tant ça que finalement trouver l'opportunité de les associer à cette démarche-là qui ne s'est pas présentée. Donc il y a une autre. Les micros binauraux ont aussi été utilisés pour des parcours en fait que moi j'ai réalisés où je me suis promené dans le marché en enregistrant. En enregistrant ces ambiances sonores et finalement cette conversation du marché qui est une conversation multilingue, plurilingue, dans laquelle on discerne tout un tas de langues, bien sûr l'arabe et le bangladais largement majoritaires, mais aussi d'autres langues, on verra ça tout à l'heure, qui dessinent une espèce de tour de Babel horizontal que devient à certains moments ce marché de Sabra. Ensuite, il y a le film et les photographies. Donc là, il s'agissait d'aller le plus loin possible dans la description des signes, des détails, des environnements, de l'atmosphère de la présence migrante à Beyrouth. Le film a été assez intéressant, mais il faut qu'on continue. On n'a eu qu'une séance de filmage à Sabra et une autre à Daoura. Le film a suscité à Daoura, qui est un autre quartier de Beyrouth, qui est situé à Beyrouth Est, qui est un quartier beaucoup plus formel, avec la présence d'une police municipale, etc. Beaucoup de méfiance, alors qu'à Sabra, il a suscité beaucoup de prises de position. Donc c'était intéressant, parce que tout le monde réagissait face à la caméra pour amener son propre commentaire sur la situation. Donc je vais vous... Donc ça se termine à 8h. J'ai trois parties. La première, ce sont les figures relationnelles, c'est-à-dire des catégories en circulation. C'est de façon un peu surplombante. Là, on va s'intéresser aux effets ou aux résultats du parcours sonore qui ont créé finalement une connaissance un petit peu surplombante où on catégorise, où on typifie, on produit des typifications de l'autre. C'est-à-dire qu'on est un peu loin de la zone de contact, là où se passent les interactions entre les locaux et ces Bangladais. La deuxième partie, donc, c'est les logiques de l'approvisionnement. Donc, je vous parlerai de tout ce qui est interaction autour des produits qui crée quelque chose de particulier et qui est déjà une première entrée sur ces relations interethniques ou interlocaux et Bangladais. Et puis la troisième partie, ce sont les choses vues et entendues depuis la charrette d'Abul Aziz. Et là, on est au contact, on est au front. J'ai enregistré, j'ai observé tout un tas de situations par lesquelles se manifeste un ordre propre à ce marché. Alors, les figures relationnelles donc, autour des parcours, on a réalisé ça avec Hala Abouzaki. Ce que le parcours a montré... C'est finalement deux figures. Il y en a une qu'on pourrait qualifier d'évitement, mais ce n'est pas tant un évitement qu'une indifférence, où on glisse à côté de la présence massive des Bangladais sans la comprendre, parce qu'on est dans un autre monde. C'est un militant, un ancien combattant palestinien qui vit à Châtilla, c'est sa femme qui fait les courses et qui passe là rarement en fait le dimanche quand il y a le marché, qui passe à côté de ce monde-là. Et la deuxième, c'est une typification ou spécification qui est celle d'un boucher donc palestinien qui travaille sur le marché, mais qui est pas directement en contact avec les Bengalais. Donc ce qui ressort de ça, c'est que déjà, la façon dont on envisage ou on considère l'autre, c'est fonction de la trajectoire des expériences des interlocuteurs. Et ça joue un rôle dans la structuration de leur discours sur les travailleurs migrants, syriens, bangladais, sri-lankais, etc. Donc comme je vous disais, le premier interlocuteur a une vision qui est un peu une vision du dehors, parce que lui investit très peu des milieux en dehors des milieux palestiniens. Il investit peu de relations en dehors des cercles palestiniens. Il a un sentiment de déclassement et aussi un sentiment d'être dépassé par l'évolution contemporaine de Sabra, de Shatila, mais aussi de toute la ville de Beyrouth et de l'ensemble du pays. Une perte de repères assez importante. Et déjà, avant l'arrivée massive des migrants dans Sabra, il déplorait la présence massive des Syriens, qui de fait est de plus en plus massive, parce qu'on observe aussi, moi, sur l'année d'observation, donc octobre 2012 à décembre 2013, parce que j'y étais encore le mois dernier, on a vu les effets de la crise syrienne, évidemment, sur la zone. Donc lui est dans un monde d'anciens combattants, un petit peu dépassé par les événements, et il tente de faire valoir quelque chose qui a une moralité du lieu, une légitimité à occuper le lieu en tant que combattant ayant défendu Shatila et qui est de fait ignoré par les évolutions actuelles. Et puis dans le deuxième cas, on a quelque chose qui est assez intéressant, qui est une description très très une construction discursive de la figure du migrant qui est particulièrement développée, avec tout un tas de catégorisations et qui passe par les aspects physiques, sensoriels, c'est-à-dire c'est le goût, le piment, c'est le physique, ils sont tous noirs, c'est le son, ils écoutent la même musique. Donc la catégorisation se fait par la perspective sensorielle, par l'abord de la perception, et c'est comme ça qu'est construite la représentation, et ça vient se croiser avec quelque chose qui était déjà là, et qui était une connaissance approximative de ce qu'est la composition démographique de la zone, c'est-à-dire les Syriens, les Égyptiens, et puis les Asiatiques qui sont regroupés un peu dans le même panier, Indiens, Sri Lankais, Philippins, enfin Indiens, oui, mais Sri Lankaises, Philippines, et puis évidemment les Bangladais, mais qui ne sont pas spécifiés en tant que tels. Et on verra que, en fait, plus on va s'approcher du marché, de la zone où les gens sont en interaction, et plus on va rentrer dans des détails et on va spécifier de façon plus claire les populations. Voilà ce qu'on peut dire sur cette première étape, qui est celle de comment on considère la construction discursive de l'autre telle que l'a laissée, telle qu'autour des parcours sonores on a pu la reconstituer. Je vais passer à la deuxième partie, qui est la question des approvisionnements de transactions ou comment les produits font médiation dans la relation entre les migrants et les autochtones. Et pour introduire cette partie, je crois que le mieux est de regarder pendant 5 minutes un petit film qui est le résultat de... qui est un premier montage fait par Michel Tabette avec ses rushs, où on a travaillé sur les interactions, les relations et les produits. Ah oui, le film n'est pas là parce que ça ne rentre pas. Je ne sais pas le mettre en pleine. Oui, non, mais c'est juste ça. Voilà. Peut-être on peut. Oui, mais c'est la lumière. Non, mais c'est fini. Donc, il n'y a pas de sous-titres. Je vais vous laisser regarder le film et puis après, je ferai quelques commentaires. Disons que quand même, ça concerne des interactions entre des Palestiniens sur place sur le marché de Sabra et des migrants bangladais. Je vous signalerai juste un moment que la caméra passe devant un migrant bangladais et qui dit « ce marché-là, il est à nous ». Et différents types de relations avec une femme qui regarde les produits, qui observe les produits des épices vendus par un marchand bangladais et qui se demande, qui espère que ce ne sont pas des choses interdites ou des drogues, des choses comme ça. Donc on est là vraiment dans l'exploration réciproque. Et ce film a été fait en 2012, octobre 2012. Aujourd'hui, les choses ont déjà un petit peu évolué.
طبيعية هذا شو بدنا نجيب أحجار بدنا نجيب المطلوب بياخدوا رز بياخدوا عدس مجروش بياخدوا طحين بياخدوا زيت بياكلوا بياخدوا خضرة تفرج بيدفعوا مصاري كتير اللي بياكلوا بياخدوا سمك بياخدوا بطاطا بياخدوا بصل بياخدوا بندورة بيشتروا على شهر على الجمعة الجاية أول ايه الى اول الشهر قابضين ومعهم مصاري كثير بمونوا على الشهر ياكلوا بدهم ياكلوا
ميغران اشيت ان غرو شي لوي بخون بلان شوز اي ايز اون سكي سكي دوموندي
هذا 27
ايه 27 حولوني مفتوح مية وخمسة وثلاثين ألف خمسة مية وخمسة وثلاثين ألف
يعني ستة
الستة بيطلعوا
قولي دولار ما بيعرفك
إذا مية وأربعة وستين بدك دولار شو بدك دولار مية عشرين سبعة وعشرين ضرب ستة مية واثنين وستين ألف
ستة كيف
إيه ستة بسطة يعني مية دولار وعشرة دولار 108 دولار هاي 100 هاي 20 هاي 40 هاي 50 يلا علي مستطعم
تشتغل او تشتري
هون اذا صبر بدل اذا يشتري قراته
وعندك بيت هون ببيروت او
ما في بيت مستاجر بيت
مستاجر بيت
300 دولار ما في ماي
grand bangladais il a un accent arabe un peu couteau il explique un peu pourquoi il est là où il habite
كله بيشتري هون
tout est cher
روز لحم كل
tout acheté riz la viande
كل شيء بيشتري هون
الاسعار كيف
سعر غالي هلا كله غالي ما
tout est cher
ما بيكفي تبع ماشي ماشي هلا ما بيكفي ايه في اشياء فيني اجيبه من دبي من هون ببيعها هني هون
اجيبه من دبي
ايه دغري ما فيني اجيب هون كله غالي اذا هوني كان 1000 ليره هون بيو هني 5000 ليره كل شيء غالي
كاشم تيفي
هذا صورة ألنا بنغلاديشي
Il est pour nous, les gens du Bangladesh. C'est leur propre activité entre eux.
Ah. في عندهم مهارات طيبة بالعكل ما في أروع منها يعني. أنا ليش ما أشتري من السوريين أشتري منهم على طول معاملهم يعني كل شغلة.
This is our company named Pran. Pran, this is good company. Pran.
اليوم كذا اليوم كذا سبكة والله حرام اليوم كذا كذا
ما صاري
حر حر عندك
هل في هذا رضاك هذا رضاك هذا
أديه
ثلاثة
لا لي أنا بهار عندك بهار
هذا كاري
بهار بهار
هذا كاري
كاري
هذا كاري
بهار ما في بهار
لا
ان شاء الله بدل لك في هون
هذا عمل
هيدا زيت ما هيك
هيدا زيت شو
قديه هاي
هذا 5000
هذا للوجه هيدا رز
هذا رز بشر رز بشر
عم يسرع ويبيعه هون
ماشي عربي كيف نعم
هذا كمون
اسمع هيدا شو هيدا
هيدا
بدنا بهارات ما في بهارات ايام يلا
ما يكون محرمات هيدا دير بالك هيدا شلته هيدا شامبو للشعر
هيدا كوكونات
كوكونات
3000
Voilà. Donc. Ok. On voit là qu'on est dans une espèce de phase exploratoire des relations entre les installés et les migrants qui s'articule autour des produits, découverte des produits, négociation sur les prix. Et ces échanges prennent une tonalité identitaire du côté des Bangladais, qui est une sorte de reconnaissance qui s'obtient par la qualité proprement, disons, ethnique ou propre à eux-mêmes de ces produits-là, et notamment des produits qui sont les moins facilement transposables aux goûts locaux, à la différence de ce qu'on a vu là, parce que là on a vu des épices, des choses comme ça qui peuvent encore voyager, mais il y a des produits qui sont très très spécifiques au goût, disons, à de la zone asiatique du Bangladesh, et qui sont ces produits-là, qui constituent les accroches, hein, je vous parlais tout à l'heure des accroches, c'est-à-dire ce qui noue la relation, et qui constituent les accroches les plus... qui sont très souvent sollicités et qui sont autour donc de ce légume particulièrement amer, très difficile d'usage, très cher. Et les Libanais demandent ce que c'est, ou les installés, c'est-à-dire Libanais, Palestiniens, et ça suscite sans arrêt des discussions, comment le préparer, comment le cuisiner, pourquoi il coûte si cher, etc. Et donc c'est autour de ce produit, qui est un concombre amer, qui s'appelle Corolla, que se noue une bonne partie des accroches entre de ces négociations, hein, entre les locaux et les installés. On est un peu dans une situation qui se rapproche de ce qu'Emmanuel Mamung qualifiait de négociation identitaire marchande. Il indiquait que dans les transactions marchandes mettant en cause des partenaires spécifiés par leur appartenance à des groupes, ici des groupes ethniques, se négocie par le truchement des biens matériels échangés, des valeurs et des signes d'appartenance. Ici, les biens sont dépositaires d'une partie de l'univers sensoriel du migrant, et c'est ça qui est mis en avant sur la place du migrant, du marché, et qui constitue finalement la base de l'échange, qui se fait donc à la fin autour d'une proposition gustative. Alors, je vous parlais tout à l'heure aussi de cet effet d'échelle qui fait que plus on va descendre, plus on va aller au contact sur le marché, plus les choses vont se préciser, ce qui est finalement logique, mais ça va aller jusqu'à des effets aussi d'uniformisation et de substantialisation des Bangladais. Ici, par exemple, on a un sample, donc une vignette sonore. Donc, je vais vous faire écouter cette vignette. C'est un marchand palestinien qui vend des poissons donc de mer et qui essaye d'attraper les migrants bangladais pour qu'ils achètent sur son étal. Et voyez comment il s'adresse à eux.
والله مش عاود والله غالي والله بهب الله وحياتي وحياتي وحيات السوق
سي با البون On n'a pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas écouter le... Donc ça, c'est des choses enfin, méthodologiquement, hein, c'est en réécoutant les parcours sonores que tout d'un coup, on se rend compte qu'il y a une voix qui crie Bangladesh, 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 qu'on n'y avait pas forcément fait attention de prime abord. Et puis, il y a aussi donc, voilà, un autre... J'ai un peu du mal. Donc ici, on a un autre phénomène qui est le voyage des langues. On entendait un migrant tout à l'heure dire « Taz, taz, frais, mon poisson est frais » en arabe. Il y a beaucoup de choses qui passent sur les langues. Et alors, il y a des sens et des hiérarchies très subtiles qui sont en place. Donc, côté migrant, on va parler et s'adresser, même, y compris entre migrants, avec parfois des formules qui sont des formules arabes, mais qui sont des formules de politesse. On n'ira pas plus loin parce que la compétence linguistique est très restreinte. Et d'ailleurs, les migrants s'expriment par formules. C'est ce qu'on a pu voir avec les linguistes quand ils ont écouté les conversations, qu'ils parlent l'arabe par formule toute faite. Et donc là, il y a un certain nombre de choses comme tafaddal, je vous en prie, wallahu, je vous en prie, qui reviennent dans leurs annonces publiques, dans leurs criés. Et on a d'autres phénomènes dans l'autre sens, mais là, qui vont concerner une langue, l'amharique, c'est-à-dire la langue des Éthiopiens, et des Éthiopiennes surtout, parce qu'il y a beaucoup d'Éthiopiennes. Et donc là, on a un marchand qui s'adresse en arabe et en éthiopien à une cliente éthiopienne. Donc on n'a pas repéré pour l'instant des gens qui parleraient en bangladais parce que la position de ces deux nationalités est complètement différente. Les Éthiopiens, éthiopiennes, nourrissent un certain exotisme, sont plutôt considérées comme des femmes sexy, jolies. Il y a un Ethiopian Spring qui est organisé dans un quartier, disons, bobo, entre guillemets, de Beyrouth. Il y a des serveuses éthiopiennes dans les bars des quartiers de Hamra, sont des quartiers de jeunes, alors que la vision des Bangladais est bien sûr complètement différente. Donc là, pour l'instant, la langue de l'autre, ça reste encore une langue qui est, disons, intermédiaire dans les valeurs. Donc là, il parle en amharique. Rassad Boni. Et puis après, ça passe en arabe. C'est quoi de souci entre les deux langues? Voilà. Il n'en reste pas moins qu'à Sabra, les Bengalais construisent leur monde. Ils organisent leur propre marché avec leur logique, un univers sociable de discussion, mais aussi de drague, parce que Hassan, dont je vais vous parler tout à l'heure, qui vend les DVD et les CD devant la charrette de Abou Laiz, passe son temps aussi à s'adresser aux jeunes femmes, appa dans la langue en bengalais. On s'échange tout un tas d'informations sur les emplois du temps, sur ce qu'on a fait, sur où est-ce qu'on est allé acheter les poissons et, pour les vendre au marché, à quelle heure on s'est levé, etc. Donc c'est un espace de sociabilité intense, mais c'est aussi un lieu de ressources, comme ce que je disais tout à l'heure, hein, parce que en plus des discussions, du plaisir de se retrouver entre soi, il y a aussi tout cet aspect entraide, solidarité qui peut jouer dans ce lieu-là. Et d'ailleurs, c'est à cet endroit-là que s'est instituée la première association des Bengalais du Liban dans une des petites échoppes qui sont des commerces pérennes qui se sont désormais installés dans cet endroit-là. Et puis, il y a un autre aspect sur lequel que j'évoque simplement, mais il y a toute une série de photographies de Hoda Satli sur ce sujet-là qui ont été exposées, qui est les manifestations féminines, une certaine élégance. Et là, on peut y voir une souveraineté sur son corps par rapport à des contextes dans lesquels on est soumis, disons, ou dans lesquels l'apparence vous est imposée, puisque quand on travaille, dans les espaces domestiques comme femme au foyer, on doit mettre un uniforme ou en tout cas s'habiller sobrement, et quand on travaille pour les sociétés de nettoiement, on a des uniformes aussi. Donc là, sur ce marché-là, c'est un espace où les femmes se font belles, où elles s'habillent, où aussi pendant les fêtes rituelles, elles se tatouent, elles viennent avec leurs tatouages, etc. Donc c'est un lieu qui a toutes les dimensions aussi d'une sorte de lieu de ressourcement communautaire qui vient se plaquer sur cet espace de sabra, comme je vous disais, complètement déjà saturé. Et on va en voir les effets, parce qu'en face, il y a forcément... des réactions ou en tout cas des relations qui vont se faire. Et c'est ma troisième partie et dernière, c'est les choses vues et entendues depuis la charrette d'Abou Laïs. Et c'est peut-être finalement, comme je vous disais tout à l'heure, c'est assez exploratoire tout ça, hein. Mais c'est peut-être là, sur ce poste d'observation, avec ce que j'ai appelé des miniatures sociales. Donc ce qu'on a observé de microscopique, de micro-événements, que se joue une partie de cet ordre collectif de Sabra. Donc je vous parlais de ces je vous parlais tout à l'heure de ces moments lents. C'est des questions de rythme social, c'est-à-dire qu'il y a déjà une chose dont on va s'apercevoir tout de suite, c'est que en fait, quand on c'est que il y a tout un tas de moments et de choses qui sont structurants dans l'existence et dans le relationnel, qui ne sont pas pris en compte par l'analyse sociologique ou anthropologique, qui va chercher sans arrêt l'action, le discours, etc. Donc c'est des dimensions qu'on va appeler sensibles, et ces dimensions-là sont apparues du poste d'observation à côté de Abou Laïs, qui prennent des choses qui peuvent paraître anodines, surtout au regard de ce qui se passe dans cette région-là, mais qui pourtant existent bel et bien, donc on ne va pas les passer sous silence. C'est des considérations météorologiques de Abou Laïs qui peut tout d'un coup me dire « Tiens, il y a une brise qui s'est levée, tu la sens ?» C'est Hassan qui est devant lui, qui se rend compte que la pluie arrive, qui sent la météo parce qu'il est rentré en familiarité avec le lieu et qui va tout de suite essayer de trouver une bâche pour couvrir ses CD et ses DVD. C'est finalement une sensibilité et quelque chose qui est de l'ordre de la variation. Alors là, elle est météorologique, on parle d'une variation sensible de la météo. Mais alors imaginons qu'il y ait d'autres types de variations, de la même façon qu'il y a des variations sensibles de la météo, il y a aussi des variations sensibles du son et de la vue. Et ces choses-là, on a essayé de voir comment on peut les prendre en considération dans nos analyses. Alors, je vais vous donner tout de suite un exemple, par exemple, d'un aspect sensoriel lié au son, qui est le mur sonore. C'est ce qu'entend Abou Laïs depuis sa charrette à certains moments de la matinée le dimanche. Voilà, je vous laisse prendre connaissance du background, de tout ce mouvement très important. Donc ça, c'est un petit peu la base, hein, de Murray Schafer sur les paysages sonores. Écoutez ça. Donc, ce qui se passe, le mur sonore isole finalement Abou Laïs de son environnement en le plongeant dans quelque chose qui n'est pas du tout familier, mais qui va le devenir par la force des choses. Vous n'êtes pas le, c'est du bengalais ce qu'on entend. Et avec un petit peu d'arabe de droite à gauche qui arrive.
একদম দাদা সিং দিয়ে কম দিতেন না এক যদি কল একটু কম ভাই আমরা 14 করে বেছে আমরা হস্তা বেছে এটা আমার দেয়
On a un marqueur sonore plus local qui est la personne qui fait claquer les tasses de café pour. Bon, voilà. Cet enregistrement est assez long et on est dans le même rythme. Hein. C'est la conversation de personnes devant la charrette d'Aboulaïs en bengalais. Or, il faut savoir aussi qu'ils sont devant lui et que l'oreille entend et distingue beaucoup mieux ce qui est devant que ce qui est sur les côtés et ce qui est derrière, ce que d'ailleurs retransmet très bien le système du micro binaural. Et ça, c'est l'environnement d'Aboulaïs sonore. Voilà, c'est ce qu'il... Alors... Par ailleurs, il n'est pas en reste, donc sur le domaine relationnel, sur ces accroches dont je parlais tout à l'heure, ces miniatures, hein, pour vous en donner quelques exemples, disons qu'on passe d'une problématique de la place, le livre de Jean-Charles de Paul dont j'ai extrait cette citation au départ, hein, s'appelle « Sur place, en place, en place », c'est ça ? Je ne sais plus, j'ai un trou d'un coup, mais enfin bon. En tout cas, c'est lié à la place. Et on va passer de cette idée d'un environnement spatial avec ses dispositifs physiques, sensibles, avec une aire des visibilités un peu large, d'une question de la place, à une question ou un questionnement sur l'emplacement. C'est-à-dire l'ajustement, la prise de position, le fait de s'insérer, tout ce qui est une espèce de réfractation de la place dans de multiples positionnements et ajustements qui vont faire là l'ordinaire du quotidien du marché. Donc je rentre vraiment dans du micro, mais j'assume. Et ça veut dire repousser du bout du pied la barquette de poisson qu'a mis un bengalais devant la charrette de Aboulaïs. Ça veut dire demander à ce qu'on se pousse un petit peu vers la droite, vers la gauche, à ce qu'on fasse un peu d'espace par ici. Et ça, c'est quelque chose qui va rythmer toute cette vie autour de la charrette d'Aboulaïs et la vie du marché, parce que très souvent, par exemple, j'ai entendu pousse-toi de là, sale bengalais, quand un type passe en Vespa et demande au bengalais, parce que c'est pas toujours avec le bout du pied qu'on demande aux gens de se pousser. Et donc on a là quelque chose qui matérialise des conflits d'urbanité. Et des conflits d'urbanité qui ne vont pas prendre des formes de conflits sur la gouvernance du lieu, parce que ça échappe totalement à l'ensemble des acteurs qui sont sur place, parce qu'il y a d'autres personnes qui gèrent ça, qui font la protection, qui font la mafia, comme on dit sur place. On les appelle Shabbiha, du nom des milices pro-gouvernementales en Syrie. Donc on est dans cette échelle. C'est à cette échelle-là que se fait et que s'expérimente autrui. Et puis il y a tout un tas de situations en fait où Aboulaïs se sent complètement nourrit une certaine irritation par rapport au comportement des Bengalais qui savent pas négocier, qui veulent toutes les qui demandent des choses pas possibles, qui demandent des rabais incroyables, qui touchent trop les bananes, donc c'est pas des patates, ils les abîment forcément, et à chaque fois il s'énerve, il y a tout un tas de choses comme ça qui l'irritent et qui le font sortir de sa ligne de conduite et exprimer son point de vue sur une situation, lui qui voudrait tout le temps être calme, être réservé, et à chaque fois il regrette, il dit, j'aime pas m'énerver, et il passe son temps à s'énerver et à exprimer des choses sur cette présence bengalaise qui finalement l'oppresse un peu. Il rêve d'un monde un peu plus lisse, où les choses se passeraient différemment, comme son voisin Abba Ahmed, qui, alors lui, je parlais tout à l'heure de trajectoire, lui est allé comme ouvrier dans les usines automobiles allemandes, et il passe son temps à vanter l'Allemagne, son organisation et sa propreté. La propreté, c'est une autre des accroches avec l'emplacement de la relation entre les Bengalais et les locaux. Et il regrette que tous ces Bengalais rangent rien, salissent tout. Et d'ailleurs, lui-même, en fait, a trouvé un emploi à sa mesure puisqu'il vend des mouchoirs en gros. Et on a aussi des choses qui sont moins sympathiques, qui est on invective le Bangladais pour qu'il mouille ses poissons parce que ça va sentir mauvais. Donc il y a la question de l'hygiène qui revient sur ces choses-là. Voilà. Donc je vais vous faire écouter. Un sample, c'est-à-dire que ce qui énerve le plus, où on va entendre manifestement l'irritation d'Abul Aziz face à des Bangaladais qui veulent déposer leurs courses près de sa charrette, et lui est en train de balayer, et il dit, c'est pas pour toi que je balaye, c'est pour moi, et il râle, et il dit, mets-les là-bas, il y a une jeune femme qui lui dit, laisse-nous un peu, et il les laisse, et Estralina Chouaï, un type de, voilà, une petite... un relevé d'interaction. Et après, il s'adresse à Hassan qui est devant lui et il l'appelle Ya Hassan. Pardon. C'est pas grave. Ici, c'est l'envers de l'hospitalité. C'est un autre. Quand même, je vais suivre l'ordre et je vais me dépêcher. En fait, l'idéal, ça serait d'articuler toute la présentation autour des samples sonores. Mais là, j'étais pas encore suffisamment, je me sentais pas encore suffisamment à l'aise pour le faire. On l'a entendu, Khalid Nishwai ? Si. Oui, bon, en tout cas, ça y est. J'étais distrait. En tout cas, donc voilà, un exemple qui montre que Abul Aziz est dans une situation un petit peu compliquée par rapport à ce qui se passe avec les gens autour de lui. C'est des situations qui peuvent, ce sont des anecdotes, ça vous paraît comme ça quelque chose d'un peu, disons, d'assez léger, mais les enjeux sont réels parce que par exemple les questions d'emplacement, ça a conduit au fait que Hassan s'est fait rosser. Par la mafia du marché, parce qu'il n'a pas laissé le garçon d'Abul Aziz passer entre lui et la charrette d'Abul Aziz. Le garçon s'est énervé alors que Hassan plaisantait. Et Hassan a pris le garçon qui voulait le battre, qui est un garçon de 12 ans, alors que lui, c'est un jeune homme assez vigoureux d'une vingtaine d'années. Et un gars est passé, palestinien, a vu ça et l'a rossé en disant « sale Bangladais, tu te crois où ? Tu ne touches pas aux gens d'ici, etc. » Ce qui a encore mis Abul Aziz dans une situation très inconfortable parce qu'il a dû ensuite avoir tout un tas d'échanges réparateurs avec Hassan pour qu'il puisse reprendre le cours d'une activité, d'une relation normale, fût-elle sans parole. Alors, ce que je voulais vous faire écouter rapidement aussi, c'est comment on s'adresse, à l'autochtone, par exemple, ici, ou alors Hassan et son fils ne sont pas en reste avec, avec les Bengalais, en plaisantant, donc les gens en face comprennent mal parce qu'ils sont très limités. Donc il y a tout un jeu interactif qui peut se lire, disons, avec une grille d'analyse de sociologie de l'interaction, hein, que je ne ferai pas maintenant, mais qui ressort de tous ces petits relevés d'interaction. Et puis il y a aussi ce que je vous disais au départ, comment la langue crée ou discute ou gère ou entre en contact avec ce qui n'est pas connu, comment elle crée finalement du connu sur ce qui n'est pas connu. Et une des façons de le faire ici, par exemple, ça a été d'appeler tous les Bengalais du marché, c'est-à-dire mon ami. Donc là, au départ, on a une interaction qui est autour de... où Aboulaïs fait croire au Bengalais qu'il va lui prendre 500 pour son fils, 500 minimes, 25 centimes d'euros. Le Bengalais ne comprend pas, il parle de Sadiq. Je vais la passer, celle-là, qu'on n'a plus beaucoup de temps. Je vais vous mettre celle-ci, où on a des choses qui sont un sociologue urbain appelait l'envers de l'hospitalité. Il s'agissait d'Isaac Joseph, qui est toutes les libertés que s'octroient les locaux, et notamment les enfants, vis-à-vis des Bengalais, comme manifestation du fait qu'eux sont chez eux, contrairement à autrui. Alors ça peut aller assez loin, hein, des comportements qui sont assez sordides, et puis d'autres, oui, et d'autres qui sont plus amusants, comme ici, où le fils de Aboulaïs va appeler Sadiq, tous les Bengalais du marché se retournent, ça les fait bien rire, jusqu'au moment où il y en a un qui se révolte un peu et qui lui dit « lâche-nous avec ton Sadiq ». Donc là, on a entendu le Bengalais dire « ça va, lâche-nous avec ton Sadiq ». Alors, une dernière chose sur ces petites miniatures, c'est la multitude des gestes, des petits gestes de cadrage des migrants sur le marché. J'ai parlé de l'hygiène, j'ai parlé autour de... Mais finalement, tout ça, ce sont des gestes de cadrage des migrants qui montrent où est l'ordre, où est la légitimité. Et ça passe par plein de petits détails, une profusion de détails où on est tout le temps en train de demander aux migrants de se mettre de telle ou telle façon, de faire de telle ou telle façon, de nettoyer ça, de présenter mieux leur état, de se pousser par là. Et donc tout ça sont des gestes de cadrage qui marquent une domination, mais qui, comme on l'a vu, qui est une domination qui est parfois aussi presque... ou en tout cas considérablement nuancé par l'ambiance sensorielle que place ou les effets de présence des migrants sur le marché. Donc on a ces deux dimensions qui sont étroitement reliées. Bon, je vais conclure. Il y a beaucoup de façons d'agencer finalement tous ces échantillons qui sont à la fois sonores, visuels, interactifs, etc. Selon des lignes de cohérence qui vont être liées par exemple à l'ordre social du marché. Il y a toute une théorie, enfin pas une théorie, mais beaucoup d'analyses ethnologiques des marchés à Carpentras, à Barbès, etc., qui sont très intéressantes. On pourrait voir comment ce type de situation-là interroge ces analyses-là, je n'ai pas le temps de développer, mais ça serait une des possibilités de le faire. Il y en a une autre qui est intéressante aussi, c'est comment, finalement, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire à ces gestes de cadrage, à ces moments de violence, hein, parce que j'en ai quand même observé beaucoup, comment on a la capacité de sortir de la situation et de continuer d'agir. Là, je fais référence à une remarque de Messonique, qui est cité par La Plantine, qui dit que ce qui importe, c'est pas seulement la situation, mais la capacité indéfinie d'en sortir et de continuer d'agir. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui nous intéresse. Tout à l'heure, je parlais de Hassan, qui était rossé sous les yeux de Abou Laïs à cause du fils d'Abou Laïs. Mais on a beaucoup, sans arrêt, des interactions comme ça, très dures, humiliantes pour les Bangladais. Quelle est la capacité? Où vont-ils chercher la capacité de continuer d'agir? Et ils ne vont pas la chercher tout seuls. Ils se reposent aussi sur les installés de différentes manières, avec des actes réparateurs, des gens autour d'eux. Je pense que ça, c'est aussi quelque chose qui nous intéressera de développer. On a un autre indice, je finirai là-dessus, c'est la question de la légitimité. Dans d'autres situations asymétriques, entre interactions asymétriques, on a souvent quelque chose qui est un recours ou une invocation d'une rhétorique de l'humain, c'est-à-dire qu'on dépasse l'assignation identitaire et on demande à être référé à quelque chose qui est de l'ordre d'une commune humanité. C'est pas toi le Palestinien, c'est moi, je suis un homme comme toi. Or, on n'a pas du tout cette rhétorique à Sabra, elle n'est jamais apparue. Au contraire, ce qui est apparu, c'est l'ancienneté, et c'est déjà la preuve qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un ancrage qui s'est fait, et qui est que ça fait déjà 2 ans, 3 ans qu'on est là, et que ce que cherchent les Bengalais, c'est pas tellement à apparaître à égalité avec les autres, c'est à négocier leur place sur le marché pour construire leur propre monde sur celui des autres. C'est vraiment une greffe urbaine. Je vous remercie.
Merci beaucoup Nicolas pour cet exposé vraiment passionnant, qui nous a plongé dans un univers qui est celui de Beyrouth. Alors juste quelques éléments avant de laisser la parole à la salle pour des questions. Deux choses. J'annonce déjà que jeudi prochain, le 23 janvier, il y a une conférence sur les Roms en France, et ensuite il y aura une conférence de Michel Agier le 18 février sur la condition cosmopolite. En fait, ces trois séances, elles se tiennent un peu les unes aux autres parce qu'elles traitent tous de populations marginalisées, en marge ou considérées ou mises en état de minorité ou de personnes considérées comme étrangères. Donc elles ont vraiment une vraie continuité les unes par rapport aux autres. Ça, c'était la première remarque, pour que personne n'oublie de venir assister aux deux séances suivantes. Je crois que quelques mots sur ce qu'a dit Nicolas. Hein. Je crois qu'on est vraiment complètement au cœur aujourd'hui du dispositif qu'on a mis en place, enfin que Yann a mis en place surtout ces derniers temps dans ses conférences. On est vraiment la recherche en train de se construire, et les méthodes et les façons. Voilà. Donc il y a vraiment eu un exposé, je pense, extrêmement, extrêmement intéressant, en tout cas pour les étudiants. Et pour nous tous, hein, mais de vraiment montrer comment est-ce qu'une recherche se construit et comment est-ce qu'un certain nombre de, par des biais, par des méthodes qui ne sont pas toujours celles qu'on utilise, ou en tout cas qu'on n'expose pas toujours, parce que souvent on n'expose que les résultats et non pas la façon dont on a construit les choses. Je pense que là vraiment on est au cœur d'un dispositif de recherche, et c'est tout à fait passionnant de voir comment est-ce qu'on peut innover sur ces terrains. Je rappelle donc là qu'il y a un programme qui est coordonné par Naïk Miré, hein, qui est ici, hein, qui travaille avec un certain nombre de ces méthodes autour des questions des circulations en Méditerranée, et ça fait partie, dirons-nous, de ces choses-là, et ça vient s'insérer. Donc je pense qu'on aura certainement dans quelques mois d'autres résultats ou d'autres pistes de recherche qui émergeront sur d'autres terrains. Ce que tu nous as montré aujourd'hui, et moi j'en suis vraiment extrêmement intéressé, c'est qu'on a vraiment une perception de comment est-ce qu'on arrive à relire un certain nombre de marges urbaines, comment est-ce qu'on arrive à relire une condition qui est celle d'un camp de réfugiés, qui est très souvent caricaturée ou présentée par le biais de celui du dominant ou de l'installé. Enfin, c'est un peu contradictoire de considérer que dans des camps de réfugiés, on a des gens installés. C'est déjà une première contradiction. Mais là, on l'aborde par une marge de la marge. Et je crois que là, du coup, on est vraiment dans quelque chose relativement novateur qui nous permet de comprendre et de relire des espaces qui sont avec des assignations identitaires extrêmement surdéterminées. Hein, n'est-ce pas, Sabra et Chatila, outre les aspects extrêmement, historiquement extrêmement chargés de ce lieu et à juste titre. Hein, mais on a là vraiment une lecture différente, une lecture nouvelle des formes d'interaction. Et on voit vraiment comment se construit de la ville, comment se construisent des espaces dans des interactions entre des populations qui généralement ne sont pas considérées, parce qu'elles sont considérées soit de passage, soit tellement minoritaires, ou soit dans des espaces tellement micro qu'elles ne font a priori pas sens. Et là, je crois que ce que tu as réussi à nous montrer, c'est que justement, en s'attachant à des espaces micro, en regardant des interactions extrêmement quotidiennes, on arrive à dégager du sens, à relire comment des espaces se construisent. Et c'est, je trouve, extrêmement fort d'enseignement pour tout un tas d'autres situations dans le pourtour méditerranéen et ailleurs. Mais moi, vraiment, c'est ce que je trouve extrêmement intéressant, cette façon de relire des espaces par leur marge et de voir qu'au final, la condition cosmopolite dont parlera Michel Agier se construit non pas uniquement dans ces espaces qu'on peut qualifier de cosmopolites parce qu'ils sont disons-nous, des centralités urbaines, historiques ou relationnelles, mais on est vraiment que tout ce monde cosmopolite se construit aussi là où, a priori, on ne s'attend pas à le voir construire, parce que là, on est juste à la limite de la banlieue sud de Beyrouth. On est à une interaction entre des quartiers qui vont devenir chiites et Hezbollah juste au sud, qui sont tenus par des sunnites 14 mars juste à côté, et avec des Palestiniens qui sont là un peu au milieu depuis 60 ans, et puis tout un tas depuis quelques années, où d'autres quartiers de Beyrouth ont vécu ça, et le quartier de Sabra, et c'est beaucoup plus récent. On a tout un tas d'autres formes de populations qui viennent ici en interaction. Donc je trouve que vraiment là, on a quelque chose, une approche qui me paraît extrêmement novatrice et tout à fait passionnante. Voilà. Je n'ai pas monopolisé la parole plus que ça. Comme je connais bien Nicolas, je ne vais pas lui poser plein de questions. Voilà.
Merci. Merci à vous. Je passe le micro. Donc, levez la main, s'il vous plaît. Je serve à quelque chose. Vous avez dit au début qu'on vous poserait la question de savoir d'où viennent ces gens. Quel est leur itinéraire? Vous pouvez y répondre, s'il vous plaît.
Oui, alors oui, parce que il y a un certain nombre de données que j'ai omises dans mon exposé, complètement pris par la logique du lieu. C'est que depuis 2011, les migrants bangladais sont les plus nombreux au niveau des permis de travail accordés aux étrangers au Liban. Ils viennent du Bangladesh, de zones rurales, et ils sont souvent recrutés par des agences sur des bases qui ne sont pas souvent très honnêtes, et très très jeunes, notamment des très jeunes femmes. Et ils sont importés massivement au Liban, ce qui fait qu'aujourd'hui on a quasiment 40 000 personnes qui sont d'origine bengalaise au Liban, ce qui est un nombre quand même assez important, rapporté à 200 000 migrants asiatiques. Beaucoup qui arrivent, c'est aussi ça l'importance de Sabra, c'est-à-dire qu'il y en a beaucoup qui arrivent qui quittent très très rapidement leur emploi parce que c'est pas du tout ce qu'ils attendaient, ce qu'on leur avait dit. Ils sont moins bien payés, ils doivent travailler plus, etc. Puis ils ont tous les frais de voyage, de dossiers, etc. à rembourser, donc ils se font arnaquer, quoi, souvent. Et donc c'est à Sabra que beaucoup vont arriver ensuite. Pour essayer de discuter, pour voir ce qui se passe, pour vendre un peu, pour voilà. Donc d'où l'importance aussi de l'espace par rapport à aux spécificités de la migration bangladaise, qui est une migration très précaire, qui est une migration le ministère du travail libanais essaye de réglementer ça et de voir un petit peu ce qui se passe à ce niveau-là, mais ils ont et c'est pour ça qu'ils sont aussi nombreux aussi et qu'ils arrivent maintenant en masse au Liban.
Après d'où viennent-ils? C'est où résident-ils à Beyrouth? Parce que c'est qu'un marché, on fait que passer sur le marché.
Oui, ils résident. Certains résident sur Sabra. Dans cet immeuble dont j'ai parlé au départ, l'hôpital Gaza, qui est devenu aujourd'hui un gros bloc d'habitation. Donc certains partagent des appartements. Et dans le film de Michel, il y avait un interviewé qui disait qu'il louait quelque chose à 200 ou 300 dollars par mois. Donc ils vivent dans différents espaces, différents endroits au quartier de, quartier de la ville, ils peuvent venir d'assez loin, y compris d'en dehors de Beyrouth, pour allier le marché le dimanche. Il n'y a pas, à ma connaissance, un endroit particulier où il y aurait, disons, plus de migrants bengalais qui se seraient installés. Ils sont dans différents endroits de la ville, là où il y a des appartements qui peuvent louer en se mettant à plusieurs. A priori, c'est souvent dans la banlieue sud, dans certains quartiers, enfin dans les quartiers, dans la banlieue est de Beyrouth, dans un quartier qui s'appelle Naba, aucun quartier, qui sont des quartiers un petit peu populaires dans lesquels on peut louer des choses pas trop chères, et qui sont des quartiers où on va trouver beaucoup de migrants. Dans certains camps aussi, Marelia, Shatila, mais je ne crois pas qu'à Shatila, il y ait beaucoup de Bangladais qui soient installés. Ils sont installés plus à Sabra. En revanche, à Shatila, il y a beaucoup de Syriens, par exemple, qui sont installés maintenant, de Syriens qui viennent pour travailler, même si les catégories là ne sont pas très précises, mais depuis 2 ans, des gens qui viennent pour se réfugier, qui fuient la guerre en Syrie.
Je voulais savoir si la dimension religieuse avait un effet sur la greffe urbaine.
Oui, je vous remercie, j'ai oublié d'en parler. Oui, enfin, c'est-à-dire qu'au départ, et puis encore aujourd'hui, enfin, c'est quelque chose qui revient régulièrement, c'est qu'on mobilise l'islam comme quelque chose qu'on a en commun avec ceux qui sont là. Donc on mobilise l'islam pour négocier une entrée sur la place. Mais ça ne va pas plus loin que ça. C'est-à-dire qu'ensuite, il n'y a pas de dynamique communautaire liée à l'islam qu'on peut repérer dans cet endroit-là. Comme je disais tout à l'heure, pour l'instant, avant toute chose, c'est un lieu de ressourcement communautaire. C'est-à-dire c'est un lieu où on discute, où on parle sa langue, où on est ensemble, où on a ses produits. Un lieu de vente aussi, parce que ce n'est pas négligeable. Mais l'islam est régulièrement invoqué comme une carte d'entrée dans le lieu où on invoque quelque chose qu'on a en commun et qui est la religion musulmane. Et dans le restaurant bangladais ou dans les échoppes, il y a souvent des inscriptions qui sont, on a vu ça tout à l'heure, qui sont donc en bengali. Mais il y a toujours une inscription en arabe pour dire Bismillah, au nom de Dieu, le miséricordieux, ou des choses comme ça. Il y a toujours quelque chose qui est un marqueur fort d'une identité musulmane partagée.
Moi, je voulais savoir s'il y avait d'autres lieux de cette population bangladaise, notamment dans les quartiers où ils résident, d'autres lieux de commerce ethnique spécifiquement, et s'il y avait d'autres quartiers pour d'autres populations, notamment les autres populations asiatiques, qui concentraient comme ça, parce qu'on a l'impression quand même que dans ce marché-là, il y a aussi une ouverture quand même à toute une autre clientèle qui fait sens dans ce marché, pas ailleurs.
Alors, il y a d'autres lieux de centralité migrante dans Beyrouth, mais ils sont très différents parce que il n'y a rien d'équivalent à ça. L'autre lieu de centralité migrante, c'est Daoura, un des autres lieux qui est un espace où il y a du commerce, si tu veux, ethnique. Et là, on a des choses qui sont beaucoup plus formelles, beaucoup plus officiel. On a des magasins avec des patentes, on paye des impôts. Souvent, c'est tenu par des Libanais ou des couples mixtes. Et c'est eux qui tiennent le commerce ethnique. Par exemple, les Éthiopiens, c'est des couples mixtes ou c'est des Libanais. C'est même un Libanais qui fait venir les grandes vedettes de musique éthiopienne pour organiser les concerts à Beyrouth pour les Éthiopiens. Alors on a aussi après il y a d'autres lieux qui ne sont pas des lieux marchands qui sont des lieux de regroupement migrants qui sont importants, qui sont les églises, qui sont tous les lieux de culte, etc. Bon, ça je n'ai pas étudié cette dimension là c'est bien étudié par ailleurs, mais en tout cas pour les places de transactions commerciales et disons espaces publics, l'autre lieu Daoura est très différent. Il est très différent, et là ce qui est quand même c'est-à-dire que les migrants là rentrent vraiment dans les interstices d'un marché ici, et ils font leur propre commerce sur le marché existant, ce qui n'existe pas ailleurs, parce qu'ailleurs, on va avoir un quartier avec une rue, par exemple, deux rues à Daoula, qui sont des rues du commerce ethnique. On a le coiffeur éthiopien avec les produits éthiopiens, et puis le restaurant pour les Indiens, et qui sont tenus par des Libano. Alors, à Sabra, il y a une question de... Évidemment, ils ne sont pas là. Enfin, ils peuvent pas, ils pourraient pas se maintenir là sans qu'au-dessus, il n'y ait pas des choses qui se passent. C'est-à-dire que c'est évident qu'ils payent et que... ils payent non seulement, alors ça, bon, je suis passé très vite sur ces questions-là, mais ils payent évidemment à ceux qui les installent. Et il y a tout un tas de rumeurs, c'est assez marrant, parce que personne n'est exactement au courant de qui les a mis là et comment ça a commencé, cette histoire-là. Mais alors on invoque plein de choses, on pense que c'est les chiites. Kamel disait qu'on est, on est quand même entre un quartier chiite au sud, on a un quartier sunnite au nord, on a le camp de Chatila. L'espace de Sabra, c'est une membrane. C'est une membrane qui isole, qui crée sa propre dynamique commerciale, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent de Beyrouth aussi. Il y a tous les articles de contrefaçon. Et c'est une membrane qui isole et une membrane qui relie. Et là, c'est vraiment... Et cet espace-là est géré quelque part par... Mais alors, ce qui est assez étonnant, c'est que comme il y a plusieurs groupes qui sont là, les comités populaires, les sunnites, etc., on ne sait pas finalement qui a vraiment la main sur cet espace-là. Et une autre chose, c'est qu'ils payent, $10 à l'installer, à l'établi qui est là, devant qui ils se mettent. Donc un $10, ils payent une petite somme. Il y a d'autres choses qui sont en train de se passer, c'est que maintenant, les bouchers... Bon, on a vu aussi dans la première partie du film de Michel qu'ils consomment beaucoup, finalement, ils consomment beaucoup chez les locaux. Donc les bouchers, qui sont quand même la grosse mafia, enfin le gros groupe, cet endroit-là, c'est un marché des bouchers palestiniens et syriens, et libanais dans une moindre mesure. Les bouchers, il y a un boucher qui a commencé à recruter un Bengalais pour couper la viande et pour faire venir ses compatriotes. On entendait aussi le marchand de poissons crier Bangladesh, Bangladesh. Donc la greffe, l'hybridation, elle se passe comme ça. C'est qu'à un moment donné, et ça c'est une observation que je tiens de Hassef Dardar, qui fait sa thèse de géographie sur les migrants au Liban, à un moment donné, tous les bouchers disaient, de toute façon, ils ne nous concurrenceront jamais. Ils sont trop petits et trop faibles pour porter des quartiers de viande et couper la viande. Ça y est, il y en a un qui est bouché maintenant et qui fait tout ça pour le compte d'un patron et pour mettre en confiance ses compatriotes bangladais.
Oui, c'était pour savoir comment s'installent les gens. Comment en fait le marché bengalais s'est étendu par substitution des marchands libanais ou par extension. On va s'installer ailleurs, on a pris d'autres rues. Et dans ces cas-là, comment ça se négocie?
C'est par comblement des vides. Et ils sont rentrés dans les interstices. Ils se sont mis entre deux voitures. Ils se sont mis devant un boucher. Ils se sont mis à côté. C'est visible dans les photos. Là, on voit Boularis derrière. Il s'est mis devant avec les DVD. Non, ils ne sont pas étendus. Ils sont sur la zone centrale du marché. Là, ils se sont collés devant les bouchers, là.
Et la surface du marché, c'est une question subsidiaire. On est dans un centre de culture scientifique, je pense.
C'est alors la zone ça, où il y a la zone. La zone où sont les Bengalais, je vais dire, c'est une rue. Bon, on voit cette rue là, par exemple. C'est l'avenue de Sabra. Après, il y a un carrefour. Ça fait quoi, un kilomètre? Mais la zone où ils sont, eux, c'est plus petit. Hein. C'est, je ne sais pas, un gros carrefour plus deux morceaux de rue sur une centaine de mètres. Et ça s'étend d'un autre côté, mais là, il y a les magasins pérennes. Le marché, dans son ensemble, c'est assez grand. Parce qu'après, il y a tout un marché couvert avec des légumes, puis un autre avec des vêtements. Et toute cette rue-là est commerçante, hein, ce que je disais tout à l'heure. Toute cette avenue de Sabra jusqu'au carrefour, c'est un endroit où vont les Libanais et les Libanaises pour acheter des produits, des sacs, tout ce qui est contrefaçon. Et il y a des endroits où c'est très connu, c'est réputé. C'est là où il y a la meilleure contrefaçon.
Est-ce que compte tenu du temps que vous y avez passé, vous avez remarqué une certaine forme d'engouement, c'est-à-dire par exemple des clients qui reviendraient régulièrement, parce que je sais que par exemple les jeunes Palestiniens aiment bien le Bollywood et des choses comme ça. Est-ce que vous avez remarqué une sorte de ou des femmes qui auraient découvert un produit un peu miracle pour les cheveux ou pour la peau?
Oui, mais là, c'est vraiment une observation. Là où moi je suis posté, non. Il n'y a pas de jeunes Palestiniens ou il n'y a pas de Palestiniens syriens ou de locaux qui vont acheter des DVD. Ou des, dans un des magasins qui est derrière, les produits de beauté, notamment les crèmes pour les cheveux, sont maintenant très prisés par les jeunes femmes locales. Et ça, mais c'est une observation très superficielle que j'ai faite. Mais effectivement, il y a ça, et les épices, c'est-à-dire tout Kamoun, etc. aussi, un engouement, c'est beaucoup dire, mais ils sont rentrés dans le tissu commercial. Il y a des échanges qui se font. Et bientôt, les Palestiniens achèteront peut-être ce légume redoutable dont on met une once de trop, on meurt pétrifié.
Donc merci à vous, on se retrouve dans 8 jours si vous êtes intéressés par la conférence sur les Roms. Merci beaucoup, bonsoir.